Deuxième épisode, l'aménagement d'un nouveau campus universitaire, pour quels intérêts et pour quels besoins ? Réalisé par Alice Sergery, Charles-Antoine Carrière et Marius Le Maréchal.
C'est un mastodonte. En construction depuis 3 ans, le complexe des sciences se dévoile. C'est la concrétisation du plus grand chantier universitaire au Canada.
C'est comme un quartier.
Un quartier qui accueillera 2000 étudiants, 200 professeurs et chercheurs dans 4 domaines, chimie, physique, géographie et sciences biologiques.
Ici, des milliers de personnes, des étudiants, des chercheurs, des professeurs, des scientifiques, du personnel qui vont travailler, vivre dans un environnement digne du 21e siècle. Un endroit où il va se faire une science extraordinaire, une science qui va changer la vie de tout le monde, qui va nous amener à un environnement scientifique de classe mondiale. Un endroit où il y aura de la recherche qui va avoir un impact sur toute notre société, que ce soit pour réhabiliter des lacs, pour développer des batteries super performantes, pour faire que le développement durable soit une réalité et pas juste un discours, pour produire des molécules, des matériaux qui vont servir aussi bien en santé que dans les domaines industriels.
Le projet du Campus 1000 représente la vision innovatrice de l'Université de Montréal dans la création d'un nouveau complexe des sciences modernes se retrouvant entre les quartiers Parc Extension et Outremont. Voici les commentaires de Madeleine Réaume, coordonnatrice au développement du site Outremont, et Raphaël Fischler, doyen de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal.
1000 a été retenu, ce nom-là, parce que c'était mis au cœur de l'île, le milieu de l'île de Montréal. Aussi, c'était un laboratoire. On voulait que ce soit un laboratoire d'idées, un laboratoire d'innovation. Donc, le 1000, innovation, laboratoire, milieu de l'île. Et c'était vraiment l'esprit. Puis c'est aussi l'esprit d'architectural. Donc, ce sont le complexe des sciences, vous allez le voir quand vous allez l'occuper. Il y a plein de lieux d'interaction et de lieux de rencontre pour stimuler justement la créativité, l'innovation et les collaborations.
Pour moi, c'est un testing ground, c'est un lieu d'innovation potentielle très intéressant. Et ça peut avoir des ramifications internationales pour l'université, pour Montréal aussi.
Alexandre Guibault, conseiller en aménagement à la Ville de Montréal, présentant la certification LEED du Campus 1000.
L'aménagement de quartier, c'est une certification écologique. Qui justement mise sur plusieurs catégories d'indicateurs. Il faut savoir que le LEED, aménagement de quartier, fait partie de l'entente de développement entre l'université et la ville, et c'est l'université qui porte la certification. Donc c'est l'université qui rend des comptes au UHGVC, qui est l'organisme, l'entité qui certifie les projets.
Les objectifs du Campus 1000 pour les abords du projet, soit la mixité des quartiers de Outremont et de Parc Extension, qui sont historiquement séparés. Cependant, certains acteurs critiquent l'aménagement de ce campus ainsi que la localisation avec ses conséquences sur tout dirigé dans Parc Extension.
Pour moi, le grand questionnement et le questionnement avec plus d'inquiétude, c'est Parc Extension. Ce sont deux univers extrêmement différents qui se rencontrent. Ce n'est pas le Campus 1000 en tant que tel et à lui seul qui est responsable de tous les changements qui se passent dans les quartiers avoisinants. L'UDEM n'a pas initié le changement de Parc Ex, mais participe à son amplification, à son approfondissement et son accélération.
Le projet du Campus 1000 avait dans son plan 15% de logements sociaux, 15% de logements abordables pour les terrains adjacents au campus.
Écoutez, la règle du 15-15, logement, 15% de logements abordables, 15% de logements sociaux, c'est l'ancienne, c'était pas une règle, c'était un objectif que la ville s'était donné. Les nouvelles règles sont plutôt 20-20 et 20% de logements familiaux. Est-ce que 15% c'est assez? Écoutez, non. C'est pas assez comparé aux besoins. Il faut être très vigilant pour voir si les promesses sont tenues. Parce que, à moins que ce soit vraiment inscrit dans le... J'ai pas lu le plan de développement. À moins que ce soit vraiment adopté dans le règlement municipal d'approbation du projet, on ne sait pas ce qui va être construit ou pas construit. Donc, il faut être très vigilant sur la mise en œuvre des objectifs.
La mobilité représente un défi en termes d'aménagement urbain. En effet, il faut assurer une possibilité de déplacement efficace pour tous, tout en respectant certaines visions et contraintes. Au sein du Campus 1000, l'aménagement de l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux, le nouvel axe Est-Ouest au cœur du projet et la question du stationnement prouvent combien il est difficile de faire l'unanimité auprès de tous lorsque l'on imagine et aménage l'espace.
En soumission, on allait chercher un entrepreneur pour réaliser les travaux, puis là, élection, Valérie Plante arrive au pouvoir, on a un nouvel élu responsable.
Je pense que là, on va laisser la transition de côté. On s'en va vers la vision, puis moi, je veux de la mobilité.
On nous demande de revoir la vision d'aménagement de cet axe pour qu'elle soit plus axée sur la mobilité durable, donc transport actif. Et sur cet axe, notamment, on a enlevé tout le stationnement et on a décidé d'en faire un axe vélo majeur. Et vous verrez sur l'axe Thérèse-Lavoie-Roux, il y a des pistes cyclables surélevées de 2,5 mètres.
Peter Fianu, architecte et résident d'Outremont.
Ça, c'est bien de mettre les vélos, mais c'est tellement large de façade à façade.
On ne fera plus des voies à 3,9 mètres de large. Donc, vous allez voir, c'est quand même très large.
Pardon ? Trop large.
C'est trop large, ça incite à rouler vite. C'est un des reproches qu'on a actuellement sur l'utilité de la voie. Ouais. Mais là, il n'y a plus de place pour faire du stationnement.
Il y a eu un grand choix qui a été fait de la part de l'université d'aménager uniquement 400 cases de stationnement pour l'ensemble du campus 1000. Donc, actuellement, le complexe des sciences a un stationnement de 100 places en souterrain.
Pour le coup, ils sont assez fâchés du stationnement 1000 parce qu'ils...
Ou du pot de stationnement.
La vision de la mobilité douce, je pense que tout le monde est d'accord, ou le transport actif, etc. Mais il y a quand même pas mal de gens qui vivent en banlieue, dans les universités, ça leur arrive.
Stéphane Béranger, coordonnateur en développement durable à l'Université de Montréal.
Les études de mobilité qu'on a fait nous montraient que 80% des étudiants venaient en transport durable, c'est surtout le vélo et le bus, enfin le métro, le transport en commun environnant. Avec 2200 personnes, je doute qu'il y ait beaucoup de voitures qui... De tous les calculs, on n'a pas vraiment beaucoup de voitures. On ne voit pas pourquoi il y aurait tant de voitures que ça qui iraient se garer.
En termes de mobilité, la situation géographique particulière du nouveau campus complexifie également l'accès au site et les questions d'aménagement.
La cour de triage faisait que ce site-là était complètement cloisonné.
La voie ferrée du Canadien Pacifique, qui traverse l'ancienne gare de triage, est toujours en fonction et restreint la possibilité de déplacement entre le site et les secteurs avoisinants, surtout au nord-est, où se trouve le quartier de Parc Extension.
On va peut-être attendre que le train passe.
Ces pays vivent dans une bulle, là. Enfin, en ville, là-haut. Plus tu contrôleras les papiers, plus tu vas faire de passage, puis ils vont te contrôler. Plus tu vas fermer, plus les gens vont passer n'importe comment. C'est normal.
Donc, avec les propositions de la ville, l'ouverture des rues, la passerelle, le passage à niveau sur de l'épée, l'ouverture de la voie roue, fait en sorte que le quartier s'ouvre. La passerelle, elle va traverser, dans le fond, au milieu des deux bâtiments du complexe. Puis dans le fond, quand on regarde le plan, vous allez voir, là, c'est le lien direct entre les sorties métro Acadie et Outremont. Non, mais vraiment, on vient d'ouvrir vers le nord extraordinaire.
Encore une fois, les aménagements imaginés entre le site et les secteurs avoisinants ne font pas toujours l'unanimité.
C'est sûr qu'en lançant la passerelle par-dessus le train, puis on a ça permet de faire un pont, je veux bien. Mais bon, il sait que les populations se mélangent, je pense pas. On s'est exagéré, c'est dur.
On a détruit et on attend toujours de voir...
Sacha Dyke, résident engagé du quartier Parc Extension.
Mais la passerelle, on a l'impression que ça va être un peu comme les clôtures dans la clôture Acadie. Oui, on pourrait passer, mais les gens ne le font pas. Moi, je connais presque personne de Parc Ex qui va dans Ville-Montréal. Mais ils ont des beaux parcs. J'y vais de temps en temps avec mes enfants. Il n'y a personne. Il y a des belles rues vides, c'est très vert. Des beaux parcs, il n'y a absolument personne. Alors, des fois, on y va. Alors oui, même si on pourrait avoir un accès, c'est une barrière psychologique. Et j'ai l'impression que le chemin de fer est vraiment une barrière psychologique. S'il n'y a rien pour inviter les gens pour y aller, ils ne vont pas y aller. La passerelle va permettre les étudiants et étudiantes d'aller facilement à leurs cours. Alors, c'est dommage. On a ni un accès, on a un petit accès physique, mais vraiment pas d'accès économique ou social à ce nouveau campus-là.
C'est en 2006 que l'université acquiert le terrain de la Canadian Pacific qui a connu de nombreux projets avortés et qui était au centre de divers intérêts politiques.
Ce terrain était devenu, ça y est, disponible, parce que un peu abandonné d'endroit, mais il est devenu sous le phare et sous les projecteurs du CHUM un lieu, un potentiel, une exploitation, une spéculation, de l'argent à faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est important de comprendre que c'est une zone de non-droit abandonnée qui est devenue ensuite vraiment un lieu de spéculation, un lieu qui était hyper privilégié, recherché. Il y a eu des batailles, là. Ça ne s'est pas fait tout seul. Les nains du monde vont lui mettre la main dessus, bien entendu. Les communications avec le CP laissaient comprendre que oui, ils étaient capables de laisser aller la cour en autant que c'était toujours une ligne de passage. Puis c'est comme ça que l'université a saisi la balle au vol, tu sais. Et elle s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas installer un campus là? Ça a commencé comme ça, en fait. Mais je te dirais qu'avant le campus, je vais un peu trop vite en affaire. C'est que, avant le campus, c'est vrai que la ville d'Outremont avait déjà envisagé quelque chose.
Si je peux rajouter, c'est qu'en 2006, l'université acquiert ces terrains, puis la ville mise sur cette occasion pour créer un projet urbain avec l'UBM. Mais c'est l'UDM qui va proposer un plan
qui
va aller en consultation publique en collaboration avec la ville.
Il va faire l'objet d'un rapport qui va être toujours disponible en ligne aujourd'hui, le rapport de l'OCPM. Le plan d'urbanisme de la ville de Montréal devait être modifié, la réglementation locale aussi. Puis quand en 2011, le nouveau plan était dévoilé, c'était dans le cadre aussi donc, d'une nouvelle. On retournait, on modifiait pour une bonne fois donc, le règlement et le plan d'urbanisme. En 2011, on allait de l'avant. C'est à ce moment-là que le plan d'urbanisme et les règlements locaux ont été modifiés. Et dans ce cas de ce projet-ci, c'est un règlement spécial de la ville de Montréal qui a été adopté. Sans entrer dans les technicalités, les arrondissements ont le pouvoir de modifier leurs règlements locaux en termes d'urbanisme. Mais dans ce cas-ci, c'est un règlement spécial de la ville de Montréal en vertu de la charte de la ville. Donc, c'est possible qu'il y ait un grand projet qui est porté de ville de Montréal, que la ville adopte par le conseil municipal un règlement spécial.
Lorsque le règlement spécial va être adopté par la ville, l'arrondissement d'Outremont va alors perdre une grande partie de son autonomie en ce qui a trait aux politiques d'aménagement.
Juste pour être certaine, les arrondissements voulaient changer leur zonage.
Bien, l'université, par son arrivée, ce qui était autorisé, c'était seulement une gare de triage.
Donc, industriel.
Donc, pour que l'arrondissement puisse permettre de donner des permis de construction, par exemple, à l'université pour construire le complexe des sciences. Mais il devait modifier sa réglementation.
Donc, est-ce que, dans le fond, c'était juste Outremont qui devait changer?
Oui, parce qu'on est sur le territoire d'Outremont seulement, dans le cadre des pavillons actuels.
Mais ça, vous dites que ça a été compliqué pour la ville?
Il y avait en arrondissement, il y avait de l'opposition en arrondissement. Par les citoyens, en fait. Donc, les citoyens qui voyaient tout leur environnement, tout au nord de Vendôme, ils voyaient tout leur environnement changer potentiellement par l'arrivée de quand même ce gros développement-là.
Avec le passage des compétences du niveau de l'arrondissement à celui de la ville, un mécontentement grandit au sein de la population. En effet, cette dernière a le sentiment de se faire imposer des directives qui vont nuire à son cadre de vie et qui sont déconnectées de ses réalités. Et cela, autant à Outremont qu'à Parc Extension.
Et l'Université de Montréal, lorsqu'ils ont fait leur campus, mais ils l'ont vraiment pensé, et je le vois, ça m'est reconfirmé, que tout est tourné vers le sud et les aménagements, en tout cas l'intégration du nord n'a pas été conçue de la même façon vu qu'on n'était pas sur le territoire du campus comme tel. On était dans un autre arrondissement et ils n'avaient pas besoin du terrain ici. Donc il va y avoir des aménagements, ça va être avec le temps et à terme ça va être quelque chose d'intéressant qui va être ici. Mais les demandes de la population et les besoins de la population ne sont pas forcément répondus par le campus.
But this new building has some people in Park X upset. Since the campus began construction, Park X has seen an increase in rent prices, and according to a local community organizer, the problem is that nobody consulted the people of Park X.
We've also seen a lot of building demolitions on Beaumont to make way for luxury apartment projects, where a lot of tenants found themselves on the street as of July 1st, and we're very worried that others still could be forced out of the neighborhood in the months to come. We're also very worried that this will end up, leading to the disintegration of the social fabric of the neighborhood.